Bonsoir à tous. J'ai le plaisir de vous présenter ce soir notre conférencière, Madame Larissa Snorek-Yetz. Larissa vient des États-Unis, mais il y a quelques années, alors qu'elle se trouvait à Paris dans une situation matérielle précaire, elle venait de perdre son emploi, Larissa décida de se tourner vers la Bible pour trouver calme et réconfort. Les passages tirés des psaumes l'aidèrent à reprendre pied. De cette expérience est né un profond désir d'approfondir la guérison spirituelle et d'en apprendre davantage sur sa relation avec l'amour divin. Cette étude l'a comblée d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Alors, en 1997, elle suivit le cours primaire de 2 semaines sur la guérison selon la science chrétienne, et cela changea sa vie. Elle réalisa que, quel que soit son travail, elle souhaitait le baser sur une compréhension spirituelle, ainsi qu'apporter lumière et guérison à la vie des autres. Entre-temps, elle prépara un master en développement durable et consolidation de la paix. Dans ce cadre, elle prit conscience de l'importance du développement spirituel pour répondre aux défis du monde actuel. Après avoir obtenu son diplôme, elle enseigna et travailla avec des étudiants du monde entier pour les aider à trouver leurs moyens d'expression grâce à leurs compétences rédactionnelles académiques. Puis, elle offrit des services en médiation en tant que consultante pour des organisations de consolidation de la paix, avant de décider de poursuivre une formation en gestion des conflits. En 2008, elle déménagea à Boston pour travailler pour la première église du Christ scientiste en tant que membre de liaison avec l'Afrique. Puis au cours des 5 années qui ont suivi, elle passa de nombreuses semaines dans plus de 10 pays d'Afrique. Depuis 2014, elle est praticienne de la science chrétienne à plein temps et donne des conférences en français et en anglais pour tout type de public, y compris pour les jeunes. Le titre de la conférence de ce soir est « Être serein, une force de guérison ». Larissa, c'est plus simple, répondra à vos questions à la fin de la conférence, publiquement et à titre plus personnel, si vous le voulez, après, si on a le temps. Bonne conférence à tous. Et alors, on me dit de rappeler qu'il faut bien éteindre vos portables.
Bonsoir. Ça va? Excellent. Donc, merci d'être venu ce soir. On va passer à peu près 1 heure ensemble de parler de ce sujet de sérénité, la sérénité ce soir. Et ça va être vraiment une peu de conversation. Moi, je vais parler, je vais partager, mais je vais aussi poser des questions. Donc, vous pouvez aussi participer un peu en notre conférence ce soir. Pour commencer, je vais juste partager avec vous une petite histoire que j'ai entendue quand j'étais une étudiante pour mon master's. Et j'étais en train de partir pour le week-end pour... écouter à une conférencière, une personne très, un expert dans mon champ de comme étudiant et tout ça. Et mon professeur a dit, mais Larry, pendant que tu écoutes à ce que le monsieur dit et tu prends les notes et tout ça, je veux aussi que tu écoutes très bien à ton cœur, ton propre cœur. Et le message qui vient à l'intérieur de ton cœur, en même temps que tu écoutes. Il dit que normalement, c'est l'habitude pour des gens d'écouter à une personne qui parle des choses comme expert et tout ça. Mais c'est pas normal, c'est pas l'habitude d'écouter à nous-mêmes, en fait, en même temps. Et ça, c'est le vrai message qui est vraiment important. Et pour moi, ça m'a beaucoup frappé un peu c'était un moyen d'écouter dans une manière différente. Et c'est ça le message que je veux partager avec vous ce soir. Pendant que je partage de mon expérience, de mon cœur, de ma propre expérience avec la science chrétienne, avec les guérisons et les choses, les idées inspirées comme ça, j'espère que vous écoutez un message qui vient de votre propre cœur aussi. Et ça, c'est
le message le plus important que les choses que je dis, en fait. Donc, écoutez à ce message à l'intérieur, d'accord? OK, c'est clair? OK. On va commencer avec une petite histoire de qui se déroule à Sarajevo. Ça se passait à 1992. Et ce jour-là, un monsieur est venu et il approche à centre-ville. Dans une main, il tient une chaise en plastique et l'autre main, il tient une violoncelle. Il s'est assis, il a commencé de jouer. Et pendant qu'il joue avec le son velouté qui remplit l'espace comme ça, derrière lui, il y avait les obus qui explosent. Et il y avait des gens qui couraient pour se mettre à l'abri parce que c'était le début de la guerre de Bosnie. Et ce monsieur était il jouait comme le violoncelliste pour l'opéra de Sarajevo. Et il a vu la violence et toutes les choses qui se passent dans sa ville, qu'il aimait bien. Et il voulait vraiment donner une réponse. Mais il ne savait pas exactement comment résoudre les problèmes économiques, les problèmes politiques et tout ça entre des gens. Mais il savait comment jouer le violoncelle. Donc, il est venu au milieu de la guerre pour jouer. Mais pas juste une fois. Il est revenu 22 fois consécutifs parce qu'il voulait donner un peu de... C'était une commémoration pour des 22 personnes, les femmes, les hommes et les enfants, qui étaient tués au début de la guerre, pendant qu'ils faisaient la queue devant la soupe populaire. C'était sa réponse à la violence. Mais c'est pas normal, non? Tu vois une guerre et tu penses, ah, je vais au milieu de la guerre et je vais jouer un instrument. C'est pas normal, non? Mais c'était un moyen pour lui de juste partager un peu de la paix, un peu de la sérénité qu'il a eu dedans, à l'intérieur de lui, en fait. Et pourquoi je commence avec cette histoire? Moi, j'ai entendu cette histoire il y a quelques années et ça m'a beaucoup frappée. Parce que pour nous ici, j'espère que pour la plupart de nous, ou peut-être tous de nous, nous ne serons pas dans cette situation dans la vie, avec la guerre autour de nous et tout ça. Mais pour moi, ça me fait poser la question. Même avec les choses qui se passent dans la vie, qui agitaient notre pensée, nos pensées comme ça, dans nos têtes, à l'intérieur de nous, dans les pensées, dans la conscience. Mais quand les choses essaient de nous faire agiter comme ça, est-ce que nous pouvons faire la même chose? Est-ce que nous pouvons approcher tous les problèmes, les agitations de la vie avec cet sens de la sérénité? Et comment nous pouvons faire ça? Comment nous pouvons entrer au milieu de n'importe quelle situation? Pas la guerre, mais peut-être c'est une guerre entre la famille ou des gens de l'église, ou peut-être c'est juste les difficultés de la communauté, ou les autres choses qui veulent vraiment juste nous rendre un peu de pas très calme, quoi. Et comment nous pouvons approcher les situations comme ça avec un sens de la sérénité à l'intérieur de nous, dans nos cœurs, en fait. Donc ça, c'est la question pour ce soir. Comment garder ce sens? Comment trouver ce sens de la sérénité? Et comment garder pendant qu'il y a les choses qui se passent autour de nous? Et il y avait trois parties. Avant ça, je vais juste partager une chose. OK. Ça, c'est quelqu'un m'a envoyé c'est pas un poème, mais c'est quelques phrases. Qui a été écrit par une dame qui s'appelle Pam Brown, et je vais juste lire ça. Elle a écrit, « Dans le cœur le plus tourmenté, il existe un endroit paisible, un endroit au-delà du temps et qui ne peut être affecté par le changement ni la perte. Aucun tumulte ne peut troubler sa tranquillité. Aucune ombre affaiblir sa lumière. Là, dans cette sérénité, réside le repos et la guérison. Aucune de nos souffrances, aucune de nos craintes ne peuvent nuire à sa perfection. Donc moi, j'aime bien ça parce que, est-ce que vous pouvez entendre ici que c'est quelque chose qui est déjà là, en fait, la sérénité. Ce n'est pas qu'il faut échapper de Genève et aller dans les montagnes ici ou près de la, du lac ou aller quelque part, je ne sais pas où on va, dans la campagne ici en Suisse ou quelque part. Il ne faut pas échapper de la ville, de la vie pour trouver cette sérénité. En fait, quelquefois, ça semble comme ça. Oui, moi, je voyage beaucoup pour mon travail. Et quelquefois, quand je suis dans l'avion et je suis juste là et je lis un livre et c'est pas nécessaire de cuisiner ou de faire la vaisselle ou de nettoyer la maison. C'est vrai qu'en fait, ça semble que il y a plus de paix, de la sérénité quand je suis ailleurs, en fait. Mais je crois que la question, c'est quand on rentre chez nous et quand nous sommes au milieu de la vie quotidienne, est-ce qu'on peut garder ce sens de la sérénité? Et comment faire ça? Parce que ce n'est pas vraiment dans les montagnes. Même que moi, j'aime bien les montagnes, j'aime bien trouver la sérénité là-bas, mais en fait, ce n'est pas que ça existe là-bas, en fait. Parce que même pour moi, quelquefois, quand je suis... j'avais les expériences dans le passé, j'ai fait beaucoup, beaucoup de... comment dire ça? De monter les montagnes et tout ça, pour faire du sport et tout ça. Et donc, et quelquefois, dans ma vie, je suis arrivée en haut des montagnes, et c'était très calme, il y avait juste les oiseaux et le soleil et moi, et il n'y avait personne. Mais dans ma tête, il y avait les pensées qui roulent, qui roulent, qui roulent. Donc ça semble que c'était beaucoup de bruit en fait. Vous croyez? C'était très calme à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'était pas très calme quoi. Et c'est la même chose, on peut être au milieu de la ville, au milieu de embouteillage, de toutes les choses dans la ville qui bougent et tout ça. Et on peut avoir un sens du calme et de la sérénité, même si il y a beaucoup de, je sais pas, beaucoup de choses autour de nous, et la grande foule et tout ça. Donc, ce n'est pas une chose à l'extérieur. Cet sens de la sérénité, c'est une chose à l'intérieur. On cherche à l'intérieur. Et en fait, c'est déjà là. Ce n'est pas que il faut créer la sérénité et mettre en nous, en fait, quelque chose. Ce n'est pas que aujourd'hui, je vais vous donner la sérénité parce que vous êtes venus. En fait, c'est de découvrir que c'est déjà en nous, en fait. C'est comme nous sommes créés, en fait, spirituellement, pour avoir ce sens de sérénité, qui est une partie de notre nature spirituelle, notre vraie nature. OK. Pour moi, donc, même si on sait ça, quelquefois, je crois que ce n'est pas très facile de trouver cette sérénité au milieu des choses dans la vie quotidienne. Et il y a une petite image qui m'aide un peu pour garder ce sens de la sérénité. Et ça, c'est un violoncelle. Et c'est mon fils qui joue le violoncelle. Et ça marche avec le violon aussi. Mais j'ai pensé à ça quand j'étais un jour, mon fils joue le violoncelle et j'ai une fille de 12 ans qui joue le violon. Donc, il y a beaucoup de musique dans ma maison. Et moi, j'ai fait beaucoup des heures assise dans les leçons de la musique avec mes enfants. Et la première chose qu'on fait quand on arrive dans la salle pour travailler avec le professeur de la musique, la première chose, c'est de accorder l'instrument. Parce que si on joue le violon et c'est pas accordé, c'est pas très bien, quoi. Donc, la première chose, c'est d'accorder. Donc, la professeure met une machine un accordeur comme ça, avec un son qui est pur et parfait. Et tout de suite, ma fille commence de jouer le violon. Et normalement, ce n'est pas très bien accordé, donc c'est pas très bien. On écoute un son qui n'est pas en harmonie, c'est pas très bien en fait. Mais si tu vois, il y a les petits boutons en noir dans les violons, et on tourne les petites accordeurs pour que l'instrument aligné avec le son parfait. Et dès que le violon est en alignement, on peut s'aligner avec le son parfait, ça semble qu'il y a juste un son, qu'il y a juste une chose qui se passe. Il n'y a pas deux choses, en fait, un accordeur et un instrument. Ça semble qu'il y a juste une chose là-bas, une chose, un son comme ça, pur et parfait. Et pour moi, cette image, ça veut dire que c'est comme nous et la vie avec la sérénité et avec Dieu et avec ce sens de la spiritualité. Que quelquefois, dans la vie quotidienne, c'est nécessaire d'accorder nous-mêmes avec Dieu. OK, donc qu'est-ce que je veux dire pour parler de Dieu? Bonjour, bonsoir, bienvenue, bonsoir. pour moi, ce concept dans la science chrétienne, et toutes les idées que vous allez écouter ce soir viennent de ma pratique de la science chrétienne. Je suis une praticienne de la science chrétienne et je travaille avec des gens qui cherchent les solutions pour la vie avec la prière, les choses spirituelles. Donc, je travaille avec les clients, les patients partout au monde. Je reçois les emails, les textos, les choses comme ça. Et j'ai prié avec des gens partout pour trouver les solutions et on partage les idées spirituelles. Et la science chrétienne, quelquefois quand je voyage, des gens disent, mais pourquoi c'est science? Pourquoi ce n'est pas juste chrétien? C'est quoi la science chrétienne? Et il y a beaucoup de réponses à ça. Vous comprenez, chrétien, ça vient de la Bible, ça vient de christianisme, on suit Jésus et tout ça. Donc ça, c'est normal, comme beaucoup d'églises. Mais la science, c'est différent. Ce n'est pas la scientologie, ça c'est une autre chose, complètement différente. Ce n'est pas lié avec nous, en fait. Mais la science, en fait, pourquoi le mot science, à l'époque où la science chrétienne a commencé, et c'était dans les années 18, l'époque, le 19e siècle aux États-Unis, à Boston, que une dame qui s'appelle Mary Baker Eddy a commencé sa pratique de cette religion. Et le mot science à cette époque, ça veut dire que quand on cherche pour l'autorité d'une science, ça vient pas de la foi seulement. Par exemple, si vous êtes un étudiant des sciences, de physique par exemple, ou de mathématiques. Non, science c'est mieux. Physique. Et si normalement il y a les devoirs laboratoires pour les sciences physiques. Donc, si on arrive à la classe devant le professeur et on dit et c'était nécessaire pour faire quelque chose dans le laboratoire, quelque chose expérimenté et tout ça, mais tu dis, mais professeur, j'ai pas fait parce que j'ai la foi que ça marche, donc j'ai pas fait. Ça marche pour les physiques, ça marche pour les sciences. Non, parce qu'il faut expérimenter, quoi. Il faut vraiment expérimenter avec les idées qu'on apprend. Et sinon, on ne sait pas vraiment si ça marche ou non. On peut pas dire juste, non, j'ai la foi, ça marche, je vais juste continuer comme ça. Et c'est la même chose avec la science chrétienne. Ça veut dire que ce n'est pas assez pour nous, en fait, dans la science chrétienne, et pour Mary Baker Eddy, de juste avoir la foi en quelque chose. Et de juste dire, mais je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas les choses spirituelles, je ne suis pas très bien, mais j'ai la foi et c'est tout, je vais juste avoir la foi. C'est pas assez, en fait. Parce que s'il n'y a pas les résultats dans la vie, ça fait rien, en fait. Et ça, c'était une des idées de Mary Baker Eddy qui était vraiment importante. Elle a dit, il ne faut pas juste croire les choses que je dis. C'est important de mettre les idées en pratique et voir s'il y a les changements, voir s'il y a des résultats dans la vie. Et ça, c'est l'autorité d'une science. Je sais que en quelques pays, les mots science, ça veut dire quelque chose d'autre. Mais les sciences, ça veut dire juste mettre en pratique, expérimenter avec les idées, les concepts, les principes. Et voir comment ça marche dans la vie, en fait. Et l'autorité vient de l'expérience, pas de la foi. Et ça, c'est un concept de la science chrétienne, en général. Donc, OK, Dieu. On a parlé de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire Dieu exactement? Et ce n'est pas une image d'un homme quelque part qui existe, qui peut-être vient pour aider quelques personnes, mais pas les autres personnes. Non, non, non. C'est pas la... En fait, Mary Baker a dit à cette époque, dans l'année 1866, elle a commencé cette religion, la science chrétienne, principalement parce qu'elle a vu que sa religion propre de sa vie était en fait à parler des personnes qui étaient sauvées si on était parti de religion et avait des autres gens qui n'étaient pas sauvés. Donc, et elle n'aimait pas cette idée en fait. Parce que pour nous, Dieu, ça veut dire l'amour universel. Et c'est comme le soleil en fait. Quand le soleil... Il n'y a pas beaucoup de soleil ici à Genève récemment, j'ai vu. Peut-être c'est juste... Je suis arrivée hier, donc peut-être... Quelquefois, il y a le soleil et après... Oui. Aujourd'hui, j'ai fait la course et quand je suis partie, il y avait le soleil, mais 5 minutes après, il y avait la brume, on dit, c'est ça? Oui, donc, mais, non, c'est pas grave, c'était joli quand même. Mais on peut imaginer le soleil ici à Genève. Et quand le soleil brille, quand le soleil vient... Ce n'est pas que le soleil choisit les parties de Genève pour donner la lumière, non. Ce n'est pas que les personnes là-bas, ils sont très gentils, donc je vais donner beaucoup de lumière, mais les personnes là-bas sont pas très gentilles, donc je vais pas donner la lumière. Ce n'est pas un choix comme ça, en fait. C'est juste que le soleil vient et ça touche tout le monde quand il arrive et tout ça. Et c'est ça Dieu, en fait. C'est ça, ce sens de Dieu qui est universel et c'est un sens de l'amour. Et c'est basé sur un principe divin. OK, bref. Ça, c'était juste une explication de pourquoi on parle de Dieu. Et ce n'est pas vraiment un personnage, une image d'une personne partout. C'est plutôt un sens de l'amour, un sens d'une force qui existe pour chacun de nous. Et chacun de nous, nous sommes les résultats de Dieu, en fait. Par exemple, on peut pas voir vraiment le soleil. Si on regarde, on va devenir aveugle un peu parce qu'on peut pas vraiment voir le soleil soi-même, oui. Mais on voit les résultats du soleil, les rayons. On voit que le soleil vient et les choses poussent de la terre. Ça donne un peu de chaleur à la terre et tout ça. On voit les résultats du soleil, mais on voit pas vraiment le soleil. C'est comme ça avec Dieu, en fait. Et les résultats de Dieu, c'est nous. C'est chaque personne. On voit Dieu dans la vie des personnes. OK, donc ça, c'est une explication un peu. Donc, ce sens d'accorder avec Dieu, pour moi, c'est ça la sérénité. C'est de calmer les pensées qui roulent tout le temps, comme ça, et de chercher pour Dieu, de chercher pour ce sens de sérénité. Et c'est comme accorder un violon, un peu. Et Mary Baker a dit, elle a utilisé aussi cette idée, elle a dit, il faut bien garder son violon accordé. C'était pas vraiment un violon, mais ça veut dire que pour nous de accorder plusieurs fois pendant la journée. Et vous savez peut-être que, par exemple, si on joue le violon pour un concert, public comme ça, on commence par accorder le violon au début du concert, mais ce n'est pas juste une fois que on accorde le violon et c'est tout et on a fini. Il faut vraiment accorder le violon plusieurs fois pendant le concert, parce que quand on utilise le violon, ça vient désaccorder un peu, parce que c'est juste comme ça, je sais pas. Et c'est comme ça avec nous aussi, parce que quelquefois nous avons les moments où on pense qu'on est vraiment aligné avec Dieu, avec les choses spirituelles. Mais après, peut-être, il y a des choses qui viennent dans la vie, les choses qui agitent un peu. Et c'est à ce moment où il faut arrêter un peu et accorder un peu avec cette sens de sérénité avec Dieu. Donc, ça fait un travail, une pratique. Pour moi, c'est une pratique. De vraiment accorder à Dieu plusieurs fois pendant la journée, de poser, d'arrêter et de trouver cette sens d'être en accord avec Dieu, avec cette sens de l'amour. OK, donc les idées principales pour nous, voilà, c'est 7 heures, OK. Oh. Les idées principales, ça vient de la Bible et aussi un livre de Mary Baker Eddy. Donc l'idée de la Bible, c'est arrêter et sachez que je suis Dieu. Donc, dans cette phrase ici que vous voyez, il y a combien de commandes, de directives sont dans cette phrase? Combien de choses il faut faire? Deux choses, oui. OK, donc arrêtez, oui, et sachez quelque chose. Oui, sachez que je suis Dieu, OK? Sachez, cet sens de l'amour est là. La Bible, dans la science chrétienne, la Bible, c'est comme une vision religieuse, un peu. Et l'autre livre qu'on utilise, qui s'appelle « Science et santé » avec la clé des Écritures, ça, c'était écrit par Mary Baker Eddy. Et c'est un peu comme comment utilise les idées de la Bible, comment mettre en pratique. Par exemple, elle a écrit ça. « Nous entendons l'Esprit, Dieu, lorsque les sens se taisent. » Donc, c'est juste une petite phrase pour dire que c'est important pour nous de trouver un moyen de calmer tous les pensées, tous les sens, les choses qu'on voit avec les sens, pour écouter dans une manière plus profondément un peu. Donc, ça, c'est les deux idées pour nous principales. Ça, c'est Mary Baker Eddy. On a déjà parlé un peu, mais elle a pensé que elle était comme une scientifique un peu, une chercheuse sincère de la vérité. Et elle a beaucoup expérimenté avec les idées spirituelles pour voir comment ça marche dans la vie. OK, j'ai dit qu'on va avoir trois parties de la conférence. Donc, on va parler rapidement. Premièrement, être serein avec soi-même. Comment nous pouvons garder la sérénité pour nous-mêmes dans la vie et pratiquer dans la vie? On va parler de comment ça marche avec les autres, dans les rapports avec les autres. Et troisièmement, avec les affaires du monde. Donc, pour première partie, je vais juste partager une histoire. Mais avant l'histoire, je veux juste créer un peu avec vous une vision de qu'est-ce que ça veut dire d'être en paix avec nous-mêmes. Donc, si vous pensez que d'avoir ce sens de sérénité, quelles sont les caractéristiques? Comment vous savez vraiment que vous êtes en paix avec vous-même? Ça veut dire quoi exactement? Quelles sont les caractéristiques d'être vraiment en paix avec vous-même? Juste comme tu veux, juste partage. Quand tu penses à quelque chose, juste n'importe qui. Yes, voilà. OK, il y a un sens de joie, oui, joyeux. Et la joie, pour moi, ce n'est pas que j'ai reçu beaucoup d'argent de quelqu'un ou quelque chose qui se passe. Ce n'est pas vraiment lié avec les choses extérieures. C'est aussi une chose qui vient à l'intérieur. Comme tout de suite, quand on se réveille dans le matin, on peut penser, on peut être joyeux. Ce n'est pas qu'on attend pour quelque chose de vienne pour avoir ce sens de joie. C'est à l'intérieur. Excellent. OK, on est joyeux. Quoi d'autre? Oui. Ah, confiance. C'est un sens de confiance, oui. Et pour moi, ce n'est pas une confiance avec ego. Ce n'est pas une confiance... c'est une confiance que tout va bien, en fait, dans la vie. Pour moi, c'est ça, en fait. C'est une confiance que même si ça semble qu'il y a des problèmes, on va avoir la confiance que ça va résoudre un peu. Oui, il y avait une autre, oui. OK, être positif, ça veut dire que les pensées sont pas très négatives, des choses comme ça, très bien. C'est un sens de... Oui, là-bas. Une bonne conscience, OK. Oui, et oui. La paix, OK, ça semble comme... Oui. En sécurité, oui. Un sens de... Il n'y a pas de peur. On est vraiment juste... On sent qu'on est en sécurité comme ça, oui. Être en accord avec soi-même, oui. Ça semble qu'il n'y a pas de... Ce n'est pas une lutte entre nous, en fait, c'est ça? Oui. Oui. Exactement. Ils sont bien dans la peau, en fait, c'est ça, oui. Sentir bien dans sa peau comme ça. Ça veut dire que oui, s'accorder avec la valeur, que on a un but de la vie et de vraiment sentir ça, vraiment. Oui, excellent. D'autres choses? Non? Pour moi, il y a quelque chose. Quand on est vraiment en paix, ça veut dire pour moi que on pense, dans le présent, dans le moment présent, en fait. Les pensées ne sont pas coincées dans le passé. On n'a pas pensé tout le temps, mais avec les choses qui se passaient dans le passé. Et on ne pense pas trop à l'avenir, en fait, pour attendre à quelque chose de venir. En fait, on est vraiment comme je sais pas, juste vraiment dans l'instant présent. Merci. Exactement. Et c'est vraiment, on regarde les choses, on est conscient des choses à ce moment. Et ça, c'est vraiment une caractéristique pour moi. Une autre caractéristique pour moi, c'est que on juge pas les autres. Il n'y a pas de condamnation pour les autres et aussi pour nous-mêmes, en fait. On n'est pas aussi intéressé de juger les autres, en fait. On est plus intéressé de juste penser de nous-mêmes et comment nous pouvons faire les choses mieux et tout ça. Mais, et aussi de ne pas rester dans ce sens de condamnation de soi, quoi. C'est aussi, ça c'est aussi quelque chose qu'on laisse tomber avec, quand on est vraiment en sérénité. Et troisième chose pour moi, c'est que avec la sérénité, on est contente de laisser les choses se passer au lieu de contrôler chaque chose. D'avoir ce sens qu'il faut contrôler chaque chose et moi je suis chargée avec toutes les choses. C'est de vraiment être en paix, c'est de juste laisser les événements de la vie et on est parti de ça. Et je vais parler un peu de cette idée, une expérience de moi. Donc, ça fait quelques années maintenant, ça fait, je sais pas, 6 ou 7 années. Et j'avais un problème physique, un problème de santé depuis plusieurs années. C'était quelque chose qui est venu sur mes épaules et mon cou, et c'était une grande sens de douleur. Et quelquefois, c'était parce que j'ai pas bien dormi ou j'ai pas beaucoup dormi ou je sais pas. Et donc, j'avais beaucoup de douleurs et il est arrivé, il est parti comme ça et c'était chronique et il est venu depuis plusieurs années. Et cette année-là, c'était une journée, je me suis réveillée, j'avais cette douleur un peu. Et quand j'étais très, très petite, très jeune dans ma maison, ma mère nous a encouragé de prier pour les solutions. Pour n'importe quelle solution, de parler avec Dieu, de prier, de trouver ce sens de sérénité pour les solutions. Donc moi, j'étais très habituée de faire ça. Même pour les choses de santé, même pour les maladies et tout ça, j'ai commencé toujours avec calmer les pensées, de chercher Dieu, d'écouter à Dieu et tout ça. Ça, c'est l'habitude dans la science chrétienne et c'était moi j'étais habituée à ça. Donc j'ai commencé par ça. Mais au début, mes prières étaient un peu, je crois que j'ai parlé beaucoup, en fait, à Dieu. Parce que j'avais beaucoup de choses à faire. C'était 3 jours avant Noël. J'avais des amis qui vont venir pour Noël. J'avais les personnes de ma famille qui vont venir pour Noël. J'avais la maison de préparer, les repas de préparer. J'avais 2 enfants avec plein d'activités. Et j'étais vraiment stressée avec beaucoup de choses. Et moi aussi, j'ai pensé très responsable pour toutes les choses. Comme maman, je sais pas. J'avais beaucoup de projets dans mon travail aussi. Et donc, j'étais un peu stressée. Donc, mes prières, au début, quand je me suis réveillée ce jour-là, je crois que j'ai parlé avec Dieu beaucoup et j'ai dit, OK, il faut que vraiment cette douleur, je peux pas supporter ça. Il faut que ça change. Je veux avoir une guérison. Comme ça, je peux continuer avec toutes mes activités. Donc, viens Dieu vite, vite, vite et aide-moi et tout ça. C'était un peu comme moi, j'étais le, comment dit-on en français, le CEO, on dit? CEO? Non, j'étais le grand chef. On dit le grand chef, le CEO? Je sais pas. Comment? PDG, ok, le grand chef de PDG de ma vie, et Dieu était comme mon assistant divin, oui, qui est venu pour m'aider, quoi. C'était un peu comme ça, mes prières, et c'est pas une bonne prière, je peux pas vous conseiller de faire ça, mais c'est un peu comme j'ai commencé, parce que j'étais impatiente un peu, et cette douleur était vraiment embêtante, et je voulais vraiment continuer avec toutes mes activités. Mais la journée a passé, rien ne se passait, c'était fini. Le deuxième jour, je me suis réveillée, il y avait plus de douleurs et il y avait beaucoup plus de douleurs. Et le troisième jour, c'était aussi pire, c'était le pire dans ma vie. Et c'était même trop difficile de marcher, j'avais la douleur qui est venue et je ne peux pas tourner ma tête, même un petit même juste un petit peu. Donc, j'étais vraiment au lit, je ne peux plus bouger, j'étais vraiment déçue et j'ai continué de prier. J'ai pensé, qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai réalisé un peu que, en fait, c'était que je pensais que j'avais trop de choses sur mes épaules, mentalement un peu. J'étais responsable pour beaucoup de choses et tout ça. Et quand, le troisième jour, quand j'ai commencé de prier, mes prières ont changé un peu. J'ai réalisé que il faut arrêter de parler et d'écouter plus. La première chose que je suis venue en Afrique, il y avait quelqu'un qui m'a dit, mais Larry, est-ce que tu connais ce proverbe? Je crois que c'était au Kenya, mais il a dit qu'on a un proverbe ici que Dieu nous a donné deux oreilles et une bouche pour une raison. Pour que nous pouvons écouter double fois que parler, oui. Donc, je me suis souvenu de ça et j'ai dit, ah, c'est ça avec la prière aussi. Ce n'est pas mauvais de parler à Dieu, de parler, de donner les intentions, de qu'est-ce qu'on veut, mais c'est mieux d'écouter un peu. D'écouter à nos cœurs, de vraiment écouter à Dieu. Et donc, le troisième jour, c'est comment je commençais. Et pendant que j'ai calmé mes pensées, j'ai entendu une voix qui est venue en anglais, mais je vais traduire en français. Et la voix dit, je suis le berger. Et c'était une petite message. J'ai pas pensé des bergers, j'ai pas pensé des moutons. C'était juste un message qui est venu et m'a frappé un peu pendant que je priais et j'ai cherché pour une solution. Et j'ai commencé de réfléchir un peu, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Et dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires des moutons, des petites brebis et le grand berger. Et ça, c'est parce que pendant l'époque de la Bible, il y avait beaucoup d'expériences avec les bergers et tout ça. Donc, j'ai réfléchi un peu et j'ai réalisé que, en fait, j'aimais pas trop les brebis. Moi, quand j'étais jeune, j'étais aux États-Unis, j'étais à Chicago, et je suis sûre que j'avais eu une instructrice, une professeure quand j'étais jeune qui a dit, il faut pas être une brebis dans la vie, il faut pas suivre les autres personnes, il faut penser pour vous-même, quoi. Donc, je crois que j'avais un peu bias, je sais pas, bias. Opposé, oui, j'étais un peu opposé de cette sens d'être un brebis avec le berger. Donc j'ai réfléchi beaucoup et j'ai réalisé qu'en fait peut-être c'était une bonne idée de ne pas suivre les autres personnes comme un brebis et tout ça, mais pour suivre Dieu et les idées spirituelles, peut-être ça va m'aider un peu. Donc j'ai commencé de réfléchir un peu de quelles sont les qualités, les bonnes qualités des brebis avec le berger qui est Dieu. Donc, c'est quoi les qualités des brebis qui sont bien, qui sont bonnes? Confiance, l'écoute, quoi? Obéir, oui, c'est ça? Oui, reconnaître la voix du berger. Ça, c'est vraiment important. Et j'ai fait cette conférence une fois et après la conférence, quelqu'un m'a approché et a dit, Larry, j'étais juste en Irlande et j'ai vu un berger vrai, like, moderne, avec les brebis et tout ça. Et il a dit qu'il est arrivé à une colline comme ça et il y avait quelques moutons ici, quelques moutons là-bas et quelques moutons ici, juste peut-être deux ou trois dans chaque endroit. Il n'était pas très impressionné par le berger et tout ça, moderne. Mais tout de suite, le berger est sorti de la voiture et il a crié dans une manière et 200 moutons, 200 brebis sont venus et organisés tout de suite devant lui, comme ça. Parce qu'il connaît la voix de leur berger et ils connaissent très très bien cette voix, mieux que les autres. Il peut distinguer entre la voix des personnes. Et je crois que c'est ça avec Dieu, en fait. Cette sens de, et moi, j'ai réalisé à ce jour-là que c'était ma voix que j'ai connue mieux que la voix de Dieu, en fait. Et que ça, c'était important de changer un peu. Et c'était comme, j'ai passé beaucoup de moments dans mon lit ce jour-là, prier, penser comme ça. Et parce que je savais que c'était pas vraiment pour moi, je voulais pas chercher pour une cause physique pour ce problème. Je voulais chercher pour une cause pour les idées spirituelles, les idées mentales pour trouver la solution. Et j'ai réalisé qu'il faut que je connais la voix de Dieu mieux que je connais ma voix, en fait. Et ça a changé mes prières radicalement à ce moment. Et j'ai réalisé que, en fait, moi, j'ai pensé aussi, j'avais cette pensée qui est venue que, tu sais, qu'il faut que moi, je fasse cette chose parce que si je laisse mon mari ou mes enfants le faire, ça va pas être bien. Donc, il faut que je fasse ça. Ce n'est pas bien, oui. Mais j'ai réalisé ça et j'ai réalisé qu'en fait, ça donne un sens de responsabilité sur mes épaules, vraiment. Et moi, j'ai pris toutes les choses comme ça sur mes épaules, vraiment, mentalement. Et pendant que j'étais au lit, pendant cette journée, j'ai pensé des brebis, j'ai pensé des grands bergers et tout ça, j'ai changé complètement et j'ai trouvé qu'en fait, je veux suivre cette voie à l'intérieur. Cette voix de Dieu, cette voix de l'esprit spirituel, en lieu de juste être chargé avec toutes les choses, être le PDG, on dit, de ma vie. Et c'était vraiment un changement pour moi. Et pendant que j'ai réfléchi comme ça, j'ai réalisé que il y avait des changements dans mon corps aussi. Mes épaules, j'étais plus relaxée et la douleur est partie pendant quelques heures, pendant que j'ai réfléchi comme ça. Avec ce changement de pensée, il y avait un résultat dans le corps, un résultat physique, un peu, on dit. Et en fait, ce n'était pas vraiment que pour les guérisons, pour les choses dans la science chrétienne, quand on prie pour guérison, ce n'est pas une méthode de, comment dire ça, une méthode de trouver de résoudre les problèmes. C'est pas vraiment un processus de résoudre un problème. Parce que, par exemple, quand on, ce processus, ça commence avec un problème, on dit que ça, c'est mon problème, et moi, je veux trouver les idées spirituelles pour mettre en pratique, et je vais trouver une solution. Mais ce n'est pas vraiment ça avec la science chrétienne. Le processus en science chrétienne, c'est différent, en fait. Ça commence avec une vision de perfection, une vision de nous et notre rapport avec Dieu, avec l'Esprit. Et on trouve les idées, on fait une sorte de, on raisonner un peu, on réfléchit pour trouver les résultats qui sont la même chose qu'on commence. C'est comme la géométrie, un peu, les mathématiques géométrie. J'espère que ça marche en français, mais en anglais, ça marche. Aux États-Unis, ça marche pour la géométrie. Pour faire une preuve dans géométrie, on commence par les choses qu'on veut prouver, en fait. Ça commence pas par un problème. Ça commence que moi, je veux trouver cette idée et on fait des étapes pour avoir une conclusion qui est pareille avec au début. C'est comme ça, le système français avec géométrie. Ok. Je sais pas s'il y a des gens qui... Ça fait longtemps depuis que j'ai pris les études de géométrie, mais c'est un peu comme ça. On commence par les choses qu'on veut avoir comme résultat. Et c'était comme ça pour moi un peu. Pendant que j'ai réfléchi un peu comme les brebis, le berger, qu'est-ce que ça veut dire pour ma vie, j'ai oublié un peu de mon problème. De la douleur et ce problème avec mes épaules et les tensions et tout ça. J'ai oublié un peu de ça. Parce que j'étais très frappée par les idées de mon rapport avec Dieu et ces idées spirituelles. Et après ce jour-là, quand la douleur est partie, c'était la dernière fois que ça se passait pour moi. J'ai plus ce problème. Et c'est comme ça les guérisons. Parce que quand la conscience change, il y a un résultat, une guérison comme ça. Ce n'est pas juste un changement pour un moment, mais c'est l'habitude. Souvent, c'est un changement pour toute la vie. Et c'était mon expérience avec cette chose. Mais donc je veux juste oh là là, oh, le temps passe vite. Ok, ça c'est juste une petite blague que j'aime bien et c'est juste quelque chose que j'ai trouvé. Il dit tu es obligé de me suivre, tu ne peux pas te désabonner. Je suis ton berger. C'est un petit mouton qui tape sur le portable et tout ça. C'est comme Facebook. Mais moi, j'aime bien ça juste parce que le rapport avec Dieu, les relations avec Dieu, c'est comme ça. Ce n'est pas possible de désabonner de notre rapport avec Dieu. Et ça, c'est une phrase écrite par Mary Baker Eddy qui parle de pour moi, qu'est-ce qui se passait avec moi? À ceux qui sont fatigués et chargés, Jésus dit, venez à moi. Il reste donc un repos pour le juste, un repos en Christ, une paix dans l'amour. Cette pensée apaise les plaintes du corps, les plaintes de la vie. Les vagues déferlantes de la vie, cette mer agitée, se résolvent en écume et au-dessous règne un calme profond et stable. Et ce calme est déjà là. Ce n'est pas que j'ai créé un calme. C'était que j'ai réalisé que le calme était déjà là. Et c'était comme j'étais, pendant cette journée, pendant cette guérison, c'était comme moi j'étais, c'était un processus d'aligner, de s'accorder avec la vérité spirituelle, avec Dieu, qui était déjà là. Et c'était juste que j'avais besoin d'être au lit, de arrêter toutes mes choses pour vraiment être très clair avec cette idée. OK. On va, dépêcher un peu. OK, deuxième partie, être serein avec les autres. Et pour moi, l'idée qui m'aide avec cette concept de comment est-ce qu'on peut résoudre des difficultés, des conflits entre des personnes, pour moi, ça commence par cette idée qui vient de Paul dans la Bible. Après Jésus est parti dans la Bible, Paul a beaucoup voyagé. Il a parlé avec les Philippiens, les Thessaloniens, les Corinthiens et tout ça. Et il a partagé beaucoup d'idées. Et il a dit plusieurs fois cette idée. Il a dit, nous avons la pensée du Christ. Et dans une autre manière, il a dit, que l'entendement qui était en Christ Jésus soit également en vous. Donc, ce sens du Christ, ça veut dire pas que Jésus est avec nous, c'est pas ça. C'est l'esprit de Jésus, les idées qui s'appellent du Christ. C'est une influence divine qui existait pour Jésus et qui existe aujourd'hui pour tout le monde. Ce n'est pas juste pour les chrétiens, ce n'est pas juste pour les personnes ici, mais c'est vraiment une influence divine qui donne un sens d'inspiration, qui est là pour tout le monde, en fait. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour vous d'avoir la pensée du Christ? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Comment? OK, être bienveillant, oui, OK. Comment? OK, c'est pas, elle a dit, tu n'es pas avoir les pensées du diable, c'est ça? OK, c'est vraiment avoir les pensées accordées avec du bien, avec Dieu, des choses comme ça. De ne pas, avoir les pensées négatives, des choses, oui, comme ça. Excellent, OK, d'autres choses? OK, beaucoup d'amour pour tout le monde, d'avoir la compassion, de penser avec ça, oui, c'est vrai. Ne pas juger dans une manière de condamner les autres, oui, c'est vrai. L'autre, oui? D'avoir le même principe de Dieu? Oui, de voir les autres dans le même sens de Dieu, en fait. Oui, exactement. De comprendre la vie principalement par les idées de Dieu. Par exemple, je crois qu'avec ce sens pour moi des conflits entre des personnes, et je vais juste partager une petite histoire de ma sœur. J'ai deux sœurs qui sont plus jeunes que moi. Et ma petite sœur, qui est la plus jeune, elle n'a pas d'enfant. Son enfant, c'est son PhD, on dit ça, doctorat. Elle a reçu un doctorat, donc ça, c'était son enfant un peu. Donc, elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas mariée. Mais quand j'étais... une nouvelle maman, il y avait beaucoup d'années, elle aimait bien de venir chez moi et de me donner la conseil pour comment je peux améliorer ma sens d'être maman. Elle m'a donné beaucoup de conseils de comment être maman. Mais elle n'a pas d'enfant, oui. Donc, moi, j'étais un peu agitée par ça. parce que elle voulait vraiment me dire comment je peux améliorer mes efforts et tout ça, et j'étais pas très contente avec ça. Donc ça c'était un peu de, ça c'était très répétitif, beaucoup de fois. Elle est venue et on a parlé et elle m'a donné un conseil de qu'est-ce que je peux faire différemment avec mon fils et tout ça, et moi j'étais un peu agitée. Donc ça se passait beaucoup. Donc une fois, j'ai réalisé qu'en fait moi j'aimais pas trop comment moi j'ai réagi à elle en fait. Parce que il y avait la tension, j'ai senti un peu comme j'étais, je sais pas, c'était une énergie de combattre un peu, c'était pas l'amour, c'était pas la compassion, j'étais très agitée. Et je voulais pas être comme ça en fait. Et un jour j'étais en prière et j'ai médité sur cette idée. Qu'est-ce que je peux faire? Et ça, c'était, et moi, je lisais les idées de Paul et j'ai pensé, mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir la pensée de Christ, en fait? Et comment je peux être plus comme ça? Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était de ne pas réagir à ma sœur. Mais c'était vraiment difficile. Et donc, j'ai réalisé qu'en fait, le Christ, c'est une influence qui vient et qui change la conversation. Et donc, je crois que c'est une influence qui n'est pas de nous, en fait, c'est une influence divine. Mais il faut laisser l'espace pour que cette sens du Christ arrive et change des choses. Et donc, j'ai réalisé qu'avec l'agitation, quand j'ai réagi, c'était tout de suite comme ça. Je crois que même avant elle a dit quelque chose, j'étais prête de réagir, quoi. Donc, moi, j'ai décidé que la chose que je voulais faire, c'était de ne pas tout de suite réagir, mais d'attendre un peu pour le Christ d'intervenir. Et je savais pas exactement comment ça marchait, mais j'ai dit que, OK, je vais essayer ça. Donc, la prochaine fois que ma sœur est venue, et on a parlé beaucoup, et elle a commencé de donner un peu de conseils de comment je peux changer des choses. Mais avant, j'ai réagi. J'ai arrêté un peu. Arrêté, et sachez que je suis Dieu. J'ai arrêté un peu. Et tout de suite, pendant que j'ai arrêté comme ça, il y avait une pensée qui est venue. Et je sais plus qu'est-ce que c'était la pensée, mais j'ai partagé cette pensée avec ma sœur et on a beaucoup rigolé. Et la raison que je sais que ce n'était pas une pensée de moi, c'était que on a beaucoup rigolé. Et avec ma sœur, on n'a pas beaucoup rigolé à cette époque-là. Nous n'avons pas un grand sens d'humeur, en fait. On était très sérieuse et tout ça. Donc, c'était vraiment une chose qui a enlevé la tension entre nous. Et ça a complètement changé la journée là-bas et ça a complètement changé comment j'étais avec ma sœur. Elle n'a pas changé, en fait. Elle a continué de donner la conseil. Même aujourd'hui, elle n'a pas d'enfant, elle arrive chez moi, elle donne toujours la conseil pour moi de comment je peux être mieux comme maman et tout ça. Mais maintenant, je suis pas agitée. Ça m'embête pas, en fait. Et vraiment, vraiment, ça m'embête pas du tout. Et quelquefois, elle me donne la conseil qui est vraiment bien pour moi. Donc, c'était un changement pour moi de voir que, en fait, c'était l'esprit de Christ en moi qui répond à l'esprit du Christ en elle, en fait. Et ça, c'est le rapport entre nous. Et l'autre chose, c'est que, en fait, en lieu de recevoir l'information de ma sœur, de les choses qu'elle dit ou comment elle agit dans la vie, je reçois l'information de Dieu, de l'inspiration, de l'esprit, de la compassion, de cette sens de l'amour, en lieu de les choses qu'elle fait ou les choses qu'elle dit. Et c'est tellement différent, en fait, que normal. Et pour moi, c'est un sens de changer le Christ. Quand on réfléchit sur le Christ, ça change la conversation. Et par exemple, aux États-Unis, mon fils, quand il a 16 ans, il a commencé son classe de obtenir son permis de conduire. Et dans notre état où j'habite, c'était nécessaire pour les parents aussi de prendre 2 heures de classe, d'écouter un professeur parler de je sais pas quoi, pour que les jeunes personnes pour recevoir leur permis. Et moi, j'étais pas très contente avec ça. Je voulais pas passer 2 heures en classe au lycée d'apprendre comment conduire. Je sais comment conduire. J'étais pas très contente avec ça. Mais je suis allée pour mon fils. Et j'étais là dans la classe avec les autres parents. Et j'ai écouté, pas vraiment, mais OK, j'ai essayé d'écouter. Mais après un peu de temps, la professeure, l'instructrice, elle a dit que pour nos enfants, on a beaucoup parlé de comment ne pas réagir pendant qu'on conduit. Aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes d'embouteillage, surtout à Boston où on habite, et il y a beaucoup, et les gens viennent très 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 fâchés en fait. C'est vraiment une chose sérieuse quoi. Il y avait un nom psychologique comme road rage en anglais. Donc ça veut dire c'est un truc maintenant. Donc OK. Elle voulait vraiment que les enfants ne viennent pas très très fâchés aux autres personnes qui conduisent. Donc elle a dit que la prochaine fois à Boston que on conduit, il y a quelqu'un qui vient et qui conduit juste devant nous très dans une manière pas très bien. Elle voulait que les enfants descendent la fenêtre et crient par la fenêtre. J'espère que vous avez une bonne journée. Et c'est pas normal aux États-Unis. C'est pas normal à Boston parce que quelquefois des gens ouvrent la fenêtre et crient les autres choses qui sont pas très gentilles. Donc c'est juste pour illustrer qu'en fait elle voulait changer la conversation. Mon fils n'était pas très impressionné par ça, il n'a pas fait, mais moi j'ai pensé que c'était vraiment très sage, que en lieu de faire les choses, de réagir aux autres, c'est un sens de changer la conversation, de faire quelque chose qui n'est pas, qu'on n'attend pas en fait, qui est différent. Et ça c'est un peu du Christ, de changer cette conversation dans une manière qui est plus harmonieuse un peu. OK. Troisième partie, rapidement, comment est-ce qu'on peut garder ce sens de la sérénité en nous pendant qu'il y a des choses qui se passent dans la vie et dans la communauté. Et il y a une petite histoire de Jésus qui m'aide beaucoup. C'est dans la Bible, et Jésus était avec ses disciples et ils arrivent à Jéricho. Et au bord de la rue, il y avait un aveugle qui s'appelle Bartimée. Et dès qu'il a entendu que Jésus arrive, il commence de crier pour que Jésus vienne pour lui aider avec une guérison de ne pas être aveugle, quoi, de guérir cette sens d'être aveugle. Mais pendant que Bartimée criait ça, les disciples disent « Tais-toi, arrête, tais-toi ». Mais chaque fois qu'ils ont dit ça, Bartimée a crié plus fort. Donc c'était un grand désordre. Il y avait beaucoup de choses qui se passent. Et dans la Bible, il dit que Jésus s'arrêta. Et moi, j'ai lu ça il y a quelques mois et ça m'a beaucoup frappé. Pourquoi Jésus s'arrêta? Pourquoi Jésus n'a pas approché Bartimée et guéri Bartimée comme ça et tout le monde va calmer, quoi? Mais il n'a pas fait ça. Il s'arrêta. Ils ont dit qu'il était là juste. Il a arrêté. Pourquoi? Et il n'explique pas. Mais pour moi, ce sens d'arrêter, arrêter et sachez que je suis Dieu. D'arrêter, c'est important. Ça, c'est pour moi de trouver la sérénité. Ça commence par arrêter. Ce n'est pas nécessaire d'arrêter physiquement tout le temps, mais pour moi, pour pratiquer la sérénité dans ma vie, la plupart du temps, c'est juste de rappeler de faire, en fait. Et d'arrêter pendant la journée, de concentrer sur et de poser la question, comment est-ce que je peux faire cette activité avec un sens du calme? Ce matin, je fais ça avec courir, avec faire la course. Je dis, comment je peux courir en ville avec ce sens de sérénité? Parce qu'on bouge rapidement, oui, mais en même temps, c'est dans la pensée, c'est une mentalité. Donc, je crois que c'est ça pour les choses de la ville, les choses du monde qui se passent. Et j'ai entendu une petite histoire, il y a beaucoup d'années, c'était un concours pour les enfants de dessiner la paix. Et l'image qui a gagné, c'était ça. C'était un enfant qui a dessiné une grande chute d'eau, plus, peut-être plus grande que ça. Et est-ce que vous avez jamais visité une chute d'eau comme ça? Est-ce que c'est un endroit très silencieux? Non. OK. Il faut crier très fort pour, donc il y a beaucoup de bruit et tout ça. Mais derrière la cascade, sur une petite corniche, le petit enfant a dessiné un canari jaune qui chantait. Et ça, c'était le dessin qui a gagné. Et ça m'a beaucoup frappé quand j'ai entendu ça, en fait. Pourquoi c'était ça? C'était pas une scène de l'harmonie, des arcs-en-ciel, de campagne et tout ça. Il y avait cette grande chute d'eau avec beaucoup de bruit, avec beaucoup de turbulence et tout ça, qui est très agité. Mais il y avait cette canarie derrière. Et ça, c'était la sérénité, la paix. Et peut-être que vous pouvez réfléchir vous-même pour qu'est-ce que ça veut dire pour vous, mais pour moi, c'est un sens de ne pas être agité. Même si les problèmes de la vie semblent très, très, très grands, comme la cascade, et cette sens du bien, cette sens de Dieu, cette sens des choses positives semblent très petites, comme une canarie, c'est toujours vaut la peine de ne pas réagir, de ne pas venir, de ne pas entrer dans les problèmes et de penser qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de solution. Et pour moi, c'était Mary Beccaretti a commencé un journal qui s'appelle le Christian Science Monitor. Maintenant, c'est en anglais, mais c'est sur l'internet. Et c'est le but de ces nouvelles de ce journal, c'est de donner un sens de bénédiction pour le monde, en fait, de changer la conversation et de bénir le monde. Et je crois que pour nous, c'est comme nous pouvons faire aussi avec quand on garde la sérénité en nous et nous ne sommes pas agités avec les choses qui se passent. Et juste une autre histoire et après, on peut avoir les questions. On va ouvrir pour vos questions. Ça fait quelques années maintenant. J'avais 20 ans. Ça fait beaucoup d'années. OK. J'avais 20 ans. Et j'ai rencontré une dame qui habitait en Allemagne pendant que l'Allemagne était divisée en deux. Et elle a habité en Allemagne l'Est. Et elle m'a raconté que pendant 10 ans, elle a prié chaque matin pour que le mur et la division entre les deux parties d'Allemagne étaient qu'on s'est uni le pays, que le mur va tomber. 10 ans, chaque matin, elle a prié. Et à cette époque-là, moi, je ne peux pas imaginer. J'avais 20 ans, c'était la moitié de ma vie, quoi. C'était beaucoup, beaucoup de prières. Donc, moi, j'ai dit, mais comment est-ce que tu peux prier pour chaque jour comme ça et ne pas voir les résultats? Pourquoi tu n'as pas dit, ah, c'est pas la peine de prier, quoi. C'est pas la peine de prier parce que je vois rien qui change. Et elle a dit quelque chose que je vais jamais oublier, en fait. Elle a dit que le mur entre l'ouest et l'est d'Allemagne, le mur est tombé dans un instant. Mais ce n'était pas le travail d'un instant. C'était le travail de beaucoup d'années avant. Et elle a dit que chaque chose qui se passe dans la vie, qu'on voit physiquement, ça commence par un changement de pensée. Et ça, c'est peut-être, par exemple, les portables, toutes les choses qui sont les développements modernes et tout ça, ça commence par une idée. Ça commence par la pensée. Elle a dit que Et après, elle m'a posé une question. Elle a dit, Larry, comment est-ce que tu pensais qu'on peut changer les pensées, la conscience? Et elle a dit que pour elle, chaque prière, chaque effort de prier, de changer ses pensées, elle savait qu'en fait, ça détruit un peu des briques mentales qui gardent cette mur entre les deux parties d'Allemagne, en fait. Ça change la conscience. Parce que ça commence avec une personne qui change les pensées et ça continue comme ça. Et quand la conscience collective change, après le mur est enlevé. Mais ça commence par les idées. Et pour moi, c'était une réalisation à cette époque-là que c'est, même si ça semble que les problèmes sont comme la chute d'eau et que nous sommes juste les petits canaris et on peut vraiment rien faire de changer la chute d'eau, mais si on commence de chanter, si on continue de chanter, ça veut dire que si on continue de chercher pour l'espoir, de ne pas donner dans les problèmes et de penser qu'il n'y a pas d'espoir, de penser qu'il y a des problèmes sont trop grands et on peut rien faire. Ça, c'est, on dit apathie en français. Oui. Et je crois que ça, c'est vraiment l'opposé de l'amour, en fait. Mais si on garde ce sens de l'amour pour la vie et pour la communauté, chaque fois que nous changeons la pensée, ça change une sens de la conscience collective. Et je sais que c'est vaut la peine, en fait. OK, ça, c'est juste une autre phase de Mary Baker Eddy. Et après, on va ouvrir pour les questions. Elle a dit que le meilleur type spirituel de la méthode du Christ pour élever la pensée humaine et pour communiquer la vérité divine est la puissance, le calme et la force stationnaire. Et lorsque cet idéal spirituel devient le nôtre, il devient le modèle de l'action humaine. Pour moi, ça veut dire qu'en fait, c'est pour nous de faire quelque chose humain, ça commence par ce sens du calme, de calmer nos pensées. Ça, c'est toujours très puissant. D'arrêter avant de trouver la solution, avant de réagir, d'arrêter et de chercher pour ce sens de Christ et de Dieu. Et ça change la conversation, ça change la vie un peu. OK, je vous laisse, c'est un peu tard. Donc, si vous avez d'autres questions ou commentaires, je vais rester un peu de temps pour écouter. Donc, merci pour venir et de partager les idées. Merci beaucoup.